Deutsche Welle. Économie et développement.
La présidentielle en Côte d'Ivoire se déroule dans moins de 3 mois, en octobre. À cette occasion, notre correspondant sur place s'est rendu dans le nord du pays, une région pauvre où se pose toujours le problème de la reconversion des ex-combattants, de la crise politico-militaire de 2002-2011, mais aussi où des habitants cherchent des solutions pour avoir de quoi vivre. Et puis c'est déjà l'heure des vacances pour les lycéens au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou encore au Tchad. Mais en Guinée, c'est cette semaine que se déroulent les épreuves du baccalauréat. On croise les doigts pour eux, ou comme on dit ici en Allemagne, ich drücke die Daumen. On va en profiter pour parler d'un lycée international assez particulier au Swaziland, petit pays entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Et ce sera avec vous, Milena Pellegrini. Bonjour.
Bonjour Claire-Marie.
Et Milena qui est en stage en ce moment à la rédaction francophone. Vous écoutez le magazine Économie et Développement. Bienvenue à toutes et à tous. C'est le dernier appel du vol Africa. C'est le dernier appel du vol Africa. Dans moins de 3 mois, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire leur nouveau président. Il est certain que tous gardent en tête la crise politico-militaire marquée par la partition du pays pendant près de 9 ans et les violences post-électorales qui ont fait plus de 3000 morts. Cette situation a affaibli l'État et laissé de côté la population du nord du pays. L'an dernier, la Banque mondiale s'alarmait du fait qu'un Ivoirien sur 2 était considéré comme pauvre, alors que la croissance s'élevait à environ 10%. Notre correspondant Julien Daillé s'est rendu dans le nord de la Côte d'Ivoire.
La nature a été injuste avec la partie nord de la Côte d'Ivoire. Avec un sol aride, une végétation herbeuse et une pluviométrie irrégulière, il est difficile d'avoir dans cette partie du pays une variété de cultures. Et celles qui ont la chance d'y pousser sont rares avec une production faible. Mais les choses ont empiré avec la crise politico-militaire de 2002 qui a contribué au départ des techniciens agricoles et à la fermeture ou à la destruction des unités de production installées dans la région. Ibrahim Fofana, fils de Sinima Tiali, a combattu aux côtés de la rébellion qui a occupé la partie nord pendant 10 ans. Aujourd'hui, il regrette les années fastes de l'avant 2002 où tout était bien et beau pour lui.
Auparavant, il y avait des usines ici comme l'usine d'Anakad où toute la jeunesse allait se débrouiller. Maintenant, depuis la rébellion, tout est allé en fumée, ça fait que nous n'avions plus de quoi faire. Sinon que j'ai travaillé à l'usine d'Anakad. Là-bas, j'ai gagné mon sou, je savais comment entretenir ma famille. Je pouvais me faire 8000 par jour, c'était quelque chose, dans le mois c'était beaucoup.
Un peu plus loin, vers le sud de Sinima Tiali, dans la localité de Koro, Saïd Sako, 25 ans, vit les mêmes réalités que les jeunes de la ville de Sinima Tiali, chez qui l'oisiveté est un partage. Car ici aussi, à Koro, comme partout dans le nord, plus d'usines, plus d'emplois et les projets qui étaient en cours ont été suspendus ou abandonnés.
On s'est débrouillé au maître avec le projet Soja, on faisait un peu avec ça, mais actuellement il n'y a pas d'usine, tout est fermé.
Conscientes des difficultés de leur région, les femmes de Koro et d'ailleurs de cette partie de la Côte d'Ivoire ont décidé de se battre pour leur autonomie. Au nombre de ces femmes, il y a Salimata Bamba qui, en plus du travail de la terre, fait le commerce de la semoule de manioc appelée ici Atiké. Le gain de toutes ces activités lui permet de se prendre en charge.
Je fabrique à quelqu'un pour vendre. Souvent, on gagne bénéfice de 3 000 ou bien 3 500. En tout cas, ça nous arrange un peu.
Le soleil se lève sur Touba, une autre ville du nord de la Côte d'Ivoire, et chacun se prépare à vaquer à ses occupations. Ici, avant d'ouvrir son maquis, Blaise Monet donne d'abord un coup de balai. Blaise est un ex-combattant de 29 ans démobilisé. Avec son filet de sécurité, il a ouvert ce maquis qui peine à démarrer véritablement, tellement que le pouvoir d'achat est faible dans cette partie du pays. Son personnel est essentiellement composé des membres de sa famille, le temps que les choses ne fonctionnent comme il le souhaite.
Bon, souvent on a plus de clients les jours de week-end que les jours toujours ordinaires. Ce qui veut dire les samedis soirs, ça va un peu. Mais à part les samedis soirs, bon, les autres jours, c'est un peu.
À l'autre bout de la même ville, à un coin de rue, Maïmouna, la quarantaine révolue, a installé une table sur laquelle, chaque matin, elle vend le petit déjeuner aux passants.
Un pain à 200.
200, c'est pour quand aujourd'hui?
Oui, c'est pour moi. C'est le premier pain.
Premier pain.
Pour elle, l'essentiel est de faire quelque chose pour s'occuper de ses deux enfants que lui a laissé son mari tué dans la rébellion qui avait occupé leur région.
Je vends pain condiment. Ça va un peu.
vous estimez avoir combien en moyenne dans la journée?
Bon, 2000, 1500. 2 mètres quoi?
Non, on fait la même chose.
Le cap est mis sur Séguéla, chef-lieu des régions. Cette région, autrefois riche en minerais, or et diamants, malheureusement surexploitée et pillée pendant les 10 ans qu'a duré la rébellion. Ici comme ailleurs dans les autres localités parcourues, la pauvreté est palpable et les impacts de la crise encore visibles. C'est dans ce décor que Pélagie Boni, mère de 3 enfants, a pris le risque de venir ouvrir un restaurant avec 85 000 francs CFA il y a de cela 3 ans. Mais aujourd'hui, elle gagne bien sa vie et emploie 8 personnes.
La recette en moyenne par jour peut avoir 180-200. Avec ce que je gagne, je peux me prendre en charge. Je m'occupe de mes enfants. Je ne suis pas mariée. Je m'occupe de mes parents quand ils en ont besoin.
Ici, à Séguéla, comme à Sinimatiali, Touba ou Koro, aucun de nos interlocuteurs n'a bénéficié de financement. Tous se sont plutôt lancés dans le système D. Certains se sont même déjà inscrits pour des projets ou recensés pour des programmes. Mais depuis, rien.
Nos autorités sont venues vers nous, nous parler des projets de financement. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien vu encore. Ça nous fatigue beaucoup.
On est là, on attend. Sinon, pour le moment, on se débrouille nous-mêmes pour faire nos activités.
Où j'étais à Séguéla, il y avait emploi jeune là-bas. Mais je suis parti m'inscrire, mais ils ne m'ont pas appelé ni rien. Et cela a duré même. Et je me suis dit que non, c'était l'escroquerie, quoi. Parce qu'on a payé 350.
Les choses semblent se mettre petit à petit en place parce qu'ici à Séguéla, un bâtiment a été aménagé depuis plusieurs semaines déjà avec une enseigne sur laquelle on peut lire « Région du Ouro-Dougou, emploi jeune ». Mais pour l'heure, le store qui fait office de porte d'entrée à ces locaux est encore fermé. Julien Daillé à Séguéla pour la Deutsche Welle.
N'oubliez pas, vous pouvez chaque semaine écouter le reportage axé sur l'économie et le développement en avant-première dans l'Afrique qui bouge. C'est dans la matinale du mardi sur la Deutsche Welle. Vous êtes bien à l'écoute du magazine Économie et Développement et vous venez d'entendre Myriam Makeba, la grande chanteuse opposée à l'apartheid. Vous allez comprendre tout de suite. Toujours dans le studio avec moi, Milena Pellegrini. Je le disais dans le sommaire, certains lycéens sont déjà en vacances, d'autres doivent encore passer le bac. Un lycée n'échappe pas à cette règle, le Waterford Kamlaba United World College au Swaziland. C'est un des premiers établissements multiraciales d'Afrique, Milena.
Oui, son histoire est plutôt belle. L'école a été fondée en 1963 avec juste 16 élèves noirs, blancs et indiens, ce qui était considéré comme contre-nature à l'époque par ses détracteurs. Cette école, c'était un pied de nez à l'apartheid de l'Afrique du Sud voisine, nous dit son directeur actuel, Stephen Lowry.
Son fondateur, Michael Stern, était venu d'Angleterre et il devait construire une école anglicane en Afrique du Sud. Mais là-bas, la ségrégation raciale dans les écoles le mettait tellement en colère qu'il a décidé de monter un établissement dans le protectorat britannique du Swaziland, avec des élèves qui avaient une couleur de peau et des origines différentes.
L'aventure s'est poursuivie. Les enfants de Nelson Mandela y ont même étudié lorsque lui-même était en prison. Aujourd'hui, le Waterford Kamlaba compte plus de 600 élèves venant de 50 pays différents. L'équipe enseignante est elle aussi multiculturelle.
Yeah. 50 nationalités et une langue commune, vous l'avez entendu, l'anglais, pour ces jeunes d'Afrique du Sud, de Chine, du Zimbabwe, d'Espagne, du Maroc, d'Angleterre, du Mozambique et bien sûr du Swaziland.
Et ils étudient dans un cadre privilégié sur une colline qui surplombe Mbabane, la capitale. Il y a des terrains de sport, une piscine, des festivals de musique sont organisés sur le campus. L'année peut coûter très cher, plus de 10 000 euros. Évidemment, tout le monde ne peut pas s'offrir ça, mais un élève sur cinq bénéficie d'une bourse.
Et ici, le baccalauréat est international, il se prépare en 2 ans, un peu comme dans le système allemand. Et comme ailleurs, des échanges existent.
Oui, Charlotte Behrens, originaire de Berlin, est venue passer 6 mois ici. Elle aime l'atmosphère internationale, même s'il faut parfois s'adapter.
On vient d'avoir un débat sur les règles à adopter lorsque nous allons quelque part le week-end. Je veux dire que l'on a 18 ans, nous sommes sous notre propre responsabilité. Mais certains qui ont eu une éducation plus conventionnelle trouvent cela complètement fou de résider seul au Swaziland. Alors on doit s'accommoder des conflits qui ont régulièrement lieu.
On l'entend, Milena, les élèves apprennent donc la diplomatie tous les jours.
Et selon le règlement du lycée, ils doivent aussi s'investir socialement. Charlotte est donc bénévole dans sa patrie d'accueil.
Je suis dans une école d'État et je donne des cours d'anglais. Il y a aussi un hôpital qui a été complètement reconstruit et nous avons aidé pour l'extérieur du bâtiment. Nous aidons volontiers là où on a besoin de nous. Ce qui est bien, c'est que nous sommes connus, on reçoit toujours de nouvelles demandes. Le week-end, on est toujours occupé. Il y a toujours quelque chose de bien à faire quelque part.
Et Charlotte apprend aussi quelques mots en allemand à ses amis, comme Sarah, qui vient d'Éthiopie.
I know danke and I know liebe dich something I love you how to say I love
ich
you
liebe dich.
Yeah ich liebe dich yeah I know those two. No.
Sarah sait donc dire merci et je t'aime en allemand, un bon début.
Eh bien, danke Milena et merci aussi à Jan-Philipp Schlüter pour les interviews. Et c'est la fin de ce numéro. Pour le réentendre, rendez-vous sur notre site www.com/français, rubrique médiathèque. Merci pour votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine.
Bambarana, oh yeah, Bambarana, oh, je m'en fous.